hop, et puis voilà.
Actuel et lui.
Je vais vous faire une chronique musicale. Alors j'avais décidé par légèreté d'esprit de vous parler de mes petits plaisirs solitaires.
Je vais vous parler de télé.
Comment se soigner par les plantes.
Je parlerai de la gaudriole.
Quels sont les accessoires incontournables qui vous mettront en valeur? Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques petits conseils pour être au top, alors à vos stylos.
Messieurs, n'hésitez pas à faire comme moi, à tester et à vous faire votre idée.
Actuel et lui.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actuel et lui. Nous sommes en direct.
Ça faisait longtemps, on est ravis de vous retrouver.
Bonjour les amis.
Alors, quel est le programme d'aujourd'hui? Nous commençons, comme d'habitude, par Anne-Marie.
Alors, je vous propose de faire la sieste.
Oh, bah, ça démarre bien. Oui. On aurait peut-être dû commencer par moi et finir par Anne-Marie.
Oui,
mais bon.
ça aurait été peut-être plus judicieux,
oui, mais bon, plus logique.
Non, mais après, on va se réveiller pour vous écouter. Et d'ailleurs, Guillaume, tu vas nous parler de quoi?
Moi, je ferai la sieste devant la télé.
Alors, tu vas pas avoir grand-chose.
Voilà, bon, il sera question de télé-réalité, de questions pour un champion, de...
D'actu télé,
ouais,
donc.
Ouais, d'actu,
hein.
Voilà, un peu une petite revue de presse de l'actu télé, voilà. Et toi, Caro, tu pars sur la radio.
Oui, enfin, je vais vous parler cuisine, très exactement.
Ouais.
C'est pour ça qu'on aurait pu peut-être déjeuner avant et faire la sieste après, mais bon, c'est pas grave, hein.
Qui dordine,
voilà.
Allez, c'est parti.
Bon, tu voudrais dire que je peux aller me coucher, c'est pas la peine que je fasse ma chronique.
Ah ben, le jingle ne veut pas partir, mais c'est pas grave. Allez, on y va.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Allez, Anne-Marie, c'est à toi.
Oui, alors dans cette chronique, j'avais envie de parler de sommeil, mais j'espère évidemment que je ne vais pas vous endormir avec cette
chronique. C'est le risque.
C'est le risque, effectivement. Mais bon, c'est pour ça que je vais vous poser quelques questions pour que vous puissiez rester éveillés. Alors, il faut quand même savoir que nous passons environ un tiers de notre vie dans notre dodo. À se reposer, c'est quand même énorme, un tiers de notre vie. Donc voilà, on va parler sommeil, comment ça se passe quand on dort et puis quand on n'arrive pas à dormir, je vous donnerai quelques conseils. Alors l'Institut national du sommeil et de la vigilance nous rappelle que le sommeil fait partie des fonctions vitales de l'organisme comme la respiration, la digestion ou l'immunité. Alors le sommeil est indispensable, on le sait, au maintien des fonctions d'apprentissage, de mémorisation et d'adaptation à des circonstances nouvelles, hein, on le dit souvent. Si on apprend des choses évidemment la journée, eh bien le soir, la nuit, le cerveau va pouvoir se remémorer tout ça. Mais on a besoin de cette phase de sommeil et de repos pour pouvoir du coup ingurgiter de nouvelles connaissances. Alors, il joue évidemment un rôle clé pour l'état du bien-être dans la journée. Les spécialistes estiment que le sommeil est impliqué dans la croissance, évidemment, chez l'enfant, comme dans les réparations des muscles, de la peau, des os chez l'adulte, parce que l'hormone qui commande ces processus, l'hormone de croissance, est sécrétée essentiellement au cours du sommeil profond. Alors, au niveau du cerveau, pendant le sommeil lent, l'activité donc se ralentit de plus en plus au fur et à mesure que le sommeil s'approfondit et que le dormeur passe du stade N1 au stade N3. Alors, pour information, le stade N1 est le stade de transition entre l'éveil et le sommeil. Donc, le dormeur n'a pas vraiment l'impression de dormir, il somnole. Hein. On a tous cette sensation, quand on est au lit, de se sentir partir. Donc, ça, c'est le stade N1. Et quant au stade N3, c'est le stade où le dormeur est difficile à se réveiller car il est dans un sommeil profond. Alors, c'est tout bête ce que je vais dire, mais c'est vrai que généralement, les voleurs, les cambrioleurs attendent toujours ce sommeil profond qui peut arriver vers 1h ou 2h du matin pour cambrioler, puisqu'effectivement, c'est à un moment donné où, du coup, on ne va pas entendre les sons, on sera vraiment dans un sommeil très profond. Donc au niveau du corps, c'est pareil que pour le cerveau. On a une diminution progressive des principales fonctions de base de l'organisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouls et la respiration ralentissent, la tension artérielle, le tonus musculaire et la température corporelle baissent. Alors, Caroline et Guillaume, est-ce que vous, vous êtes de gros dormeurs? Est-ce que vous faites des nuits de bébé, comme on dit souvent?
Pas vraiment.
Pas vraiment, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que je dors de 1h à 6h30, 7h.
D'accord, ah oui, c'est pas énorme. Et toi, Caroline?
Alors, je pense que je suis plutôt une grosse dormeuse, mais que je respecte pas forcément mon...
Ton rythme?
Mon rythme, oui. Mmh.
Ça veut dire qu'une nuit, pour toi, c'est...
Moi, ça va être 11h30, 7h. Mmh. C'est un D'accord. peu plus long, Guillaume, mais...
Mmh. Oui, c'est vrai que toi, Guillaume, tu fais des petites nuits quand même, hein.
Donc... Après, je me rattrape le week-end.
Ah, d'accord. Donc, faut pas te déranger le week-end, tu non. fais que dormir.
C'est ça, puis tu prends des jours de vacances, comme aujourd'hui, pour dormir. Ah.
Donc, chaque personne, effectivement, a son propre rythme, on le voit autour de cette table. On a des besoins différents, et évidemment aussi, il y a les habitudes qui font que bah, parfois, on change aussi notre rythme. Alors, on distingue les rythmes courts, donc moins de 6 heures. Et les longs dormeurs, hein, 9 heures ou plus. Les gens du soir ou du matin, d'ailleurs, j'ai l'impression que vous êtes plus du soir, du
coup,
en même temps ce que vous dites. Avec, bien sûr, tous les intermédiaires entre ces extrêmes, ça va de soi. Alors, dans notre cerveau, nous avons une horloge interne qui commande le rythme de notre sommeil. Et curieusement, cette horloge n'est pas strictement calée sur 24 heures. Sa périodicité spontanée est un peu plus grande, d'environ 24,3 heures. Et ce qui nécessite du coup un réajustement à nos rythmes tous les jours. Bon, en plus, effectivement, il y a des jours où on est plus fatigué que d'autres parce que voilà, on est malade, on a plus travaillé ou quoi. Mais en plus du rythme de nos journées, voilà, il faut en plus s'adapter à cette horloge interne qui n'est pas donc calée sur l'horloge des 24 heures. Mais évidemment, donc, le temps de sommeil change aussi en fonction de l'âge, ça va de soi. Un bébé, les premiers temps, ça ne fait que dormir ou presque. Mm-hmm. Maman Caroline le sait mieux que nous autres. Et puis, petit à petit, évidemment, le sommeil du bébé évolue, heureusement, j'ai envie de dire. Donc, un nouveau-né, par exemple, dort entre 16 et 17 heures par jour. Ce temps est important, hein, je le disais tout à l'heure, parce qu'une des fonctions donc, du sommeil chez le nourrisson est la maturation du cerveau. C'est aussi pendant cette...
Il y en a qui n'ont pas beaucoup dormi, alors. C'est vrai. Ils auraient dû dormir plus.
Ça va, aujourd'hui. Hein.
Mais enfin, je ne pense pas que ce soit à nous qui
bon, soyons... Pas total, non, du tout.
Donc, c'est aussi pendant cette phase que sont sécrétées hein, les hormones nécessaires à sa croissance. C'est pour ça qu'un bébé doit dormir beaucoup. Cependant, il existe, comme chez les adultes, hein, des grands dormeurs et des petits dormeurs sans que cela gêne la maturation. Donc, il y a des bébés gros dormeurs qui dorment près de 20 heures par jour et d'autres qui ont besoin de 14 heures sur 24, ça dépend. Par la suite, hein, le temps de sommeil diminue progressivement à mesure que l'enfant grandit. Donc, à peu près à 6 mois, l'enfant a besoin de 15 heures de sommeil, à 1 an de 14 heures, à 3 ans de 13 heures et à 5 ans, moins de 10 heures. Donc voilà, ça évolue en sachant qu'il y a évidemment les siestes qui sont comprises dans ces heures de sommeil. Alors pour les seniors, eh ben, c'est pareil que pour les bébés, j'ai envie de dire. Donc dès l'âge de 50 à 60...
Mais tout est pareil chez les seniors oui, bah, et les bébés.
C'est un éternel recommencement. Oui. Dès l'âge de 50 à 60 ans, donc, la structure du sommeil va se modifier au gré des changements. Ainsi, le temps de sommeil nocturne a tendance à diminuer, alors que le besoin de la sieste peut réapparaître, comme chez les bébés, comme chez les nourrissons. Donc, les personnes.
Ouais, chez certains, il n'a jamais disparu quand même. Tu ne le dis pas, mais.
C'est vrai.
Tu nous avais pas fait déjà une chronique sur les coins siestes
si, il me semble bien, ouais.
Ah, peut-être. J'ai pas dû assez dormir, je m'en souviens pas. Donc, les personnes âgées dorment en moyenne 7 heures hein, sur les 24 heures. Alors, cependant, les 7 heures de sommeil sont rarement consécutives. Hein. On sait que les personnes âgées parfois se lèvent la nuit et puis voilà, pendant une heure ou deux heures,
c'est
ne dorment pas.
C'est d'autres soucis généralement.
Oui, mais ne se rendorment pas.
Qui les réveille?
Mais ne se rendorment pas de suite. Nous, ça nous arrive de nous lever et puis on se rendort de suite.
Si vous voulez, vous pouvez nous appeler pour, pour nous donner vos témoignages.
voilà, c'est vrai qu'ils font quand même pas mal de siestes aussi. Et alors justement, j'avais une question à vous poser.
Et alors, pardon, mais tout ça vaut pour les hommes et les femmes de façon égale?
Alors oui, non, parce qu'en plus, c'est vrai que je parle de la cinquantaine. La cinquantaine pour les femmes, c'est la ménopause. Et bon,
ou la biopause, pour ceux qui ont regardé Fais pas ci, fais pas ça, hier soir, quand même.
Ou la biopause, exactement. Et c'est vrai que cette période a une influence aussi sur le sommeil des femmes. Et les hommes n'ont pas ce genre de problème. Hein. C'est toujours pareil, les hommes sont toujours plus chanceux que les femmes en la matière.
Eh oui.
Donc effectivement, on est assez inégaux aussi face au sommeil. Bon, j'ai envie de dire que là, vu qu'on est jeune, je ne sais pas si réellement il y a un impact.
Non, parce que tu parlais du sommeil profond, mais enfin, oui. C'est quand même attesté dans quasiment tous les couples. Quand on a des jeunes enfants, il y en a qu'un sur deux qui entend le petit pleurer la nuit. Le sommeil est moins profond.
Alors je suis pas sûre que ce soit
l'une que chez l'autre.
Je suis pas sûre que ce soit vraiment une question de sommeil, peut-être d'envie, non, de motivation.
Oui, ou de responsabilité inconsciente. Oui, je vais dire.
C'est sûr. Et alors, oui, j'avais envie de vous poser une question. Il y a une mode en ce moment. Est-ce que vous la connaissez justement donc en matière de sommeil?
Bah,
ou de
bureau,
non-sommeil, justement. Alors, effectivement, il y a la sieste au bureau. Mais ce n'était pas celle-ci dont j'avais envie de vous parler, parce que c'est vraiment une mode encore plus récente. Alors, mais tu as raison, hein, c'est vrai qu'on recommande de plus en plus aux salariés de faire une petite sieste, une micro-sieste, hein, comme on dit. Ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes pour se reposer.
C'est très réparateur.
Oui. Ouais. Mais ce n'était pas cette mode-là dont j'avais envie de vous parler.
Après, non, pas d'autres modes sur la...
Mais vous avez dû sûrement en entendre parler, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on a pas mal de reportages à la télévision ou des articles dans la presse. C'est la mode du moment, donc c'est en fait se lever très tôt, très très tôt.
Ah oui, tout à fait, oui. Oui, j'ai vu ça.
Alors, moi, ça m'a échappé complètement, excusez-moi. Mais... Oui.
C'est se lever très tôt pour finalement avoir du temps pour soi.
Exact, bah, tu vois, Lia.
Tôt le matin.
Bah très tôt, hein, puisque c'est voilà. Aux alentours généralement de 5 heures du matin. C'est une nouvelle tendance qui vient tout droit des États-Unis. Donc,
tu vas faire du sport en salle de sport à 5 heures du matin.
Ça permet.
Non, mais je sais pourquoi j'en ai pas entendu parler.
Et ça permet finalement de profiter de soi-même. Enfin, c'est ce que disent les personnes qui font ça. Et de mettre en application donc, l'expression finalement, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et on appelle ces personnes donc, qui se lèvent à l'heure où les poules dorment encore finalement, des morningophiles.
Ouais, alors bon, moi j'ai un coq à côté de chez moi. À 5 heures, ils commencent à battre leur appel. Hein, excuse-moi, mais.
Ah oui,
et puis alors des fois ça dure la journée après. C'est
en même temps il a rien à faire de la journée.
C'est vrai.
Et donc effectivement il y en a qui se lèvent donc à 5h du matin voilà pour pouvoir faire du sport comme tu le disais. Il y en a même qui se lèvent pour lire voilà pour profiter d'eux-mêmes. Bon. Et résultat pour répondre à ces nouveaux besoins, il y a effectivement des salles de sport aussi dans les grandes villes qui ouvrent beaucoup plus tôt, donc vers 6h parce que bon à 5h le temps que tu te prépares et t'y ailles. Et certains même disaient que 6h c'était le deuxième créneau le plus apprécié dans la journée, là où il y avait le plus de monde. Dans les salles de sport, ce qui est quand même hallucinant. Ça veut dire vraiment que voilà.
Alors moi, j'ai vécu en Allemagne il y a fort longtemps. Depuis fort longtemps en Allemagne, les piscines sont ouvertes le matin tôt. Que les gens vont nager avant d'aller au bureau.
En même temps, c'est pas aberrant.
Non, non, complètement.
Ah non, c'est pas aberrant, mais bon, c'est vrai que moi, je mettrais pas mon réveil à 5h du matin pour aller faire du yoga ou de la gym. Il y a même aussi des salons de coiffure qui ouvrent beaucoup plus tôt pour se faire couper les cheveux. Donc vous, ça vous tenterait de vous lever tous les matins à 5h, parce que c'est pas une fois de temps en temps, hein, c'est vraiment, on s'y tient, mais quoi.
Après, moi, étant du soir, non, pas du tout, quoi.
Oui. Le problème, c'est que c'est un glissement, au final, c'est-à-dire que le temps que tu passes... Enfin, tu vois, moi, par exemple, justement, ce temps... on va dire pour moi machin un truc vraiment très voilà c'est ça va être la dernière heure entre 11h30 et minuit et demi 1h où finalement bah voilà je vais faire
oui, c'est l'inverse, oui.
Voilà où je vais potentiellement lire écouter une émission de radio me poser enfin voilà faire le truc que j'ai envie quoi.
Oui, mais c'est vrai que bon, après, là, c'est parce que t'es chez toi, mais c'est vrai que pour une personne qui va aller justement faire de la piscine ou aller dans une salle de musculation, il est évident qu'à 23h, t'auras plus de difficultés à trouver une salle ouverte finalement qu'à partir de 5h ou à partir de 6h, en sachant que ça, je vais le dire aussi tout à l'heure au niveau des conseils, si on a envie de s'endormir relativement bien le soir. Il est quand même conseillé de ne pas faire du sport 2 heures avant d'aller au lit, par exemple. Donc, voilà.
Oui, non, mais moi, le sport...
Non, moi, je ne rien avec Guillaume.
n'est pas mon objectif personnel, mais c'est un tort. Hein, mais voilà.
Alors, le problème, enfin, après, si problème il y a avec ce genre de personnes qui préfèrent aussi se lever à 5 heures du matin, donc très tôt, c'est que ces personnes vont réduire parfois leur durée de sommeil. Parce que c'est pas parce qu'elles se lèvent à 5 heures du matin qu'elles vont pouvoir, le soir, à 21 heures, être déjà au lit et dormir. Et réduire notre durée de sommeil, que ce soit volontaire ou non, ça nous met quand même en danger. Notre santé et notre vie sont en danger. Bon, alors, un danger tout relatif, évidemment, car un manque de sommeil limite notre concentration, diminue nos défenses immunitaires, augmente notre appétit. On le dit souvent que moins on dort, plus on a des chances de devenir obèse, par exemple.
Ben, qui d'ordine, hein,
oui. Et on augmente aussi notre émotivité. C'est vrai qu'on le voit bien quand...
Ça ne convainc pas Guillaume, il faut le dire.
C'est vrai que quand on le voit bien, quand on dort pas assez, le lendemain, on ne va pas être très sympathique, on va parfois renvoyer paître les gens. Donc ça augmente notre émotivité et ça accélère aussi le vieillissement de la peau. Mieux vaut donc ne pas être à la mode. Mieux vaut donc ne pas être à la mode et dormir en écoutant son propre rythme. Bon, après, si les personnes ont envie de se lever à 5h du matin, elles font bien ce qu'elles veulent, évidemment.
Mais ben, moi, le gros inconvénient de ta solution, c'est que ça évite... Enfin, ça permet pas aux gens de regarder la télé, donc par rapport à la chronique suivante, c'est un facteur particulièrement limitant.
Mais alors, évidemment, parfois, on a du mal à s'endormir, vous allez
alors
me
c'est
dire.
C'est un peu le risque, d'ailleurs, de se coucher tard, c'est d'être tenté par la télé oui. plus que le matin en se levant. Quoi.
C'est sûr.
Ah bah, c'est sûr. C'est sûr.
Ah bah, c'est sûr que oui, le matin, tu as télé matin, et voilà.
Oui, encore à 5h du matin, pas
et
sûr.
Et le télé-shopping.
C'est ça. Donc vous allez me dire que parfois c'est pas toujours évident de s'endormir et je vais donc vous donner quelques conseils pour vous laisser bercer dans les bras d'Hypnose, dieu du sommeil, et Père de Morphée, dieu des rêves, parce qu'on a souvent tendance à dire qu'on va s'endormir dans les bras de Morphée alors qu'en fait c'est les bras d'Hypnose.
Voilà. Ah, quel lien avec la dernière chronique, c'est beau.
Oui.
Oui, vraiment, oui.
Tout s'enchaîne en cette année 2016. Alors, bon, évidemment, ces quelques conseils, vous les connaissez déjà et vous les mettez sûrement en pratique, je suppose. Donc, évidemment, on évite les excitants le soir. Alors, quand je dis excitant, ça va être le café, hein, le thé, donc tout ce qui est à base de caféine. Vitamine C, c'est quand même aussi déconseillé. Et le coca, puisque c'est quand même très sucré. On ne pratique pas donc d'activité physique au-delà d'une certaine heure. Alors, Guillaume se met à rire.
Non, c'est l'excitant, mais tout va bien.
Bah après, tu fais ce que tu veux de ton corps. Hein,
cette soirée, Guillaume.
Moi, quand je parle d'une activité physique, c'est une activité physique intense. Après, tu
mais
fais
c'est
ce
très
que
intense,
tu veux.
C'est très intense.
Oui.
Enfin, ça peut.
Oui, ça peut.
Bon, allons-y, avançons.
À l'inverse, par contre, on peut favoriser effectivement des activités relaxantes.
Ah, voilà, c'est très bien.
Donc, une lecture. On boit de la tisane, on se relaxe. Et alors, on évite les bains chauds. Parce que généralement, les gens disent « Ah, on va prendre un bain chaud, ça va nous relaxer. » Or non, il faut soit prendre un bain tiède, soit une douche tiède. Tout simplement parce que ça va nous aider à abaisser la température corporelle. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir s'endormir, notre corps a besoin de baisser sa température. Donc, si vous allez prendre un bain bien chaud, au contraire, ça va vous énerver et vous aurez du mal à vous endormir. Voilà. Et puis en plus, une douche fraîche, ça fait du bien pour la peau, toujours, même si c'est pas toujours évident, surtout quand elle est froide. Bon, alors on évite aussi les repas trop copieux le soir, puisqu'après on a du mal à digérer. Et puis l'alcool...
Elle veut nous casser nos deux chroniques, hein, vraiment.
Alors on évite aussi de manger et de regarder la télévision au lit. Ou de travailler, c'est important aussi que voilà, on regarde la télévision dans le salon et le lit, c'est fait pour dormir, pour se reposer ou pour faire ce que vous voulez.
Bah, mais... Surtout quand on a 17 mètres carrés de lit.
Surtout. Et puis
on en connaît.
Et puis il faut écouter aussi les signaux du sommeil. C'est ce que tu disais tout à l'heure, quand on sent qu'on commence à bâiller, que les yeux piquent, et même si on regarde une émission qui est intéressante, eh ben on se dit, Guillaume, qu'il y a le replay et qu'on peut le regarder, notre série.
Si on est
en
plein
film.
Milieu d'une série avec du suspense, on ne va pas pouvoir dormir parce que...
À force d'accumuler du replay, de toute façon, au bout d'un
c'est
moment,
il faudra se lever plus tôt.
Ouais, c'est ça.
Et puis, pour dormir, c'est aussi conseillé d'avoir une bonne literie. Hein. Pas trop dure, mais quand même. Et puis, il faut la changer aussi de temps en temps. Ne pas la garder, ne pas garder notre literie d'il y a 20 ans.
Et puis, on peut se rappeler des conseils de nettoyage
du matelas.
De
c'est tous les 10 ans un matelas.
Oui, à peu près, effectivement, effectivement. Et alors, vous savez qu'il y a aussi le feng shui. Alors, c'est un art chinois qui étudie comment les énergies circulent. Alors, autour de la table, ils sont en train de rire, mais c'est n'empêche que c'est. Alors, c'est pas véridique.
Dis-nous le nom, parce que c'est ça qui m'a fait.
Le feng shui. Ah. Eh bien, donc, selon cet art, eh bien, il nous dit quoi ? Il nous dit que la place du lit dans la chambre aurait aussi une incidence sur notre sommeil. Mmh. Donc, ouais. Par exemple, le lit doit être accessible des deux côtés. Oui. Donc, il ne faut pas coller le lit contre le mur. Hein, de oui, pouvoir ça, accéder donc, aux deux côtés du lit. Ne pas non plus placer le lit sous une fenêtre. Mmh. Et ne pas placer le lit à côté de la porte d'entrée de la chambre pour éviter d'être exposé aux énergies invisibles entrant par la porte. Non mais Caroline attends, rigole, mais c'est pas si con que ça.
Par rapport à la porte.
Par rapport à la porte, tu ne dois pas mettre le lit donc à côté de la porte. Donc par exemple là sur le pan de mur
mais
qui est derrière
toi. Mais en même
temps
pas sous la fenêtre qui est de l'autre sur de l'autre côté. C'est très compliqué. En fait.
Ah bah non. Par exemple dans cette pièce. Alors évidemment les auditeurs ne peuvent pas voir cette pièce vu comment elle est configurée.
Pour l'instant mais ça va venir.
Mais disons que la meilleure place si vous suivez mon regard, ça serait ici donc le lit.
Non parce que là t'es en direct avec les énergies.
Regarde là le
en direct. Non. Alors que là, là, elle était protégée.
Bon, enfin, c'est le feng shui qui dit ça, hein, Guillaume, c'est pas moi. Et aussi, alors, ce qui est important, c'est d'avoir une chambre bien rangée. C'est tout bête, mais ça favorise un bon sommeil. Et s'il y a trop de bordel autour de vous, vous allez avoir du mal à vous endormir. Bon, j'ai pas l'impression que vous soyez très réceptif à ça, mais tout, on le dit aussi, par exemple, c'est bien d'avoir, je crois, les pieds en direction de l'Est. Bon, bah voilà, ce sont des conseils, après on les met ou on les met pas en pratique.
Et mais là ça devient technique parce que avoir les pieds vers l'est, pas proche d'une fenêtre, pas contre un mur, pas en face de la porte, enfin pas à côté de la porte.
T'as 4 pans de mur normalement dans une pièce, Guillaume.
Ah ouais, mais ça veut dire que tu dors avec les pieds contre le mur, pour la tête de lit, ça devient n'importe quoi. Hein.
La tête de lit d'ailleurs doit être contre un mur, hein, pas parce que ça se fait de plus en plus.
Non mais oui, c'est infernal.
Ça se fait de plus en plus le lit au milieu d'une pièce. Alors ça, c'est très tendance. C'est pas conseillé. Voilà, c'est mieux vaut la tête de lit soit donc placée contre un mur. D'accord. Voilà. Et donc je terminerai cette.
Et sa life box un peu loin de.
Ah oui.
Par contre, les ondes, effectivement, pareil, les ondes ont un impact aussi évidemment sur.
Et sachant qu'on peut programmer aussi. On peut programmer ces outils.
Oui, bah par exemple box, wifi, le Wi-Fi, tu peux l'arrêter la nuit.
Tu peux le programmer au niveau horaire.
Ah bah, je suis pas venu pour rien, tiens.
Bah oui, bien sûr. Tu arrêtes ton Wi-Fi par exemple à minuit, si tu veux, tu le programmes.
Tu fais ça comment ?
Bah, dans l'interface de configuration du Wi-Fi.
Il y a que moi qui fais ça à la maison. Je vais encore passer 3 heures. Quoi.
Ah non. C'est assez facile à faire.
Et c'est pareil le portable généralement pas à côté de sa tête. Alors je termine.
Même si ça fait réveil.
Oui. Mais en même temps, on a aussi des réveils.
Mais oui, hein. Non, mais tout à fait, je dis ça parce que certains te répondent ça. Oui, mais ça me sert de réveil. Eh ben, t'achètes un réveil et puis voilà.
C'est vrai, on faisait comment avant ?
Eh ben, exactement, ma brave dame.
Je terminerai donc cette chronique par une étude qui concerne les centenaires. Elle a montré que donc, les centenaires qui étaient donc concernés par cette étude se couchaient tous tôt le soir.
C'est foutu !
N'avaient pas de problème pour s'endormir et se réveillaient tôt le matin. Et ils faisaient aussi une sieste durant l'après-midi. Et ces centenaires ne prenaient pas de somnifères. Donc ainsi, la quantité et les habitudes de sommeil pourraient avoir une grande influence sur notre longévité. Voilà.
Alors qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter, Anne-Marie ?
Eh bien, je vous propose d'écouter une chanson douce pour être en raccord avec mon thème.
Ouais, elle ne parle pas non plus, mais c'est pas grave, on va le faire à la main.
Ah, c'est les joies du direct.
C'est ça.
Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le bras
brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la, la petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, qu'entre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Oh, le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. La 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 la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. La belle princesse avec des jolis cheveux, la même caresse se vit au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Et on se retrouve donc dans Actuel et lui. La deuxième partie va donc être animée par Guillaume. Et Guillaume, tu nous parles de télévision.
Bah, elle s'est pas endormie, hein, Anne-Marie.
Non, non.
Pourtant, j'avais envie. Mais...
Oui, on commence avec le scandale du mois de janvier.
Ah bah quand même, on n'en avait encore pas parlé, il était temps.
Si, on en avait parlé rapidement, mais bon.
En se disant qu'il fallait y revenir longuement. Voilà, il
fallait y revenir, c'est ça. Une terrible éviction, effectivement, pour un pilier de France 3, puisque Dana Astier, la patronne de France 3, a fait cette annonce dès le début de l'année. Julien Lepers, le présentateur historique du jeu Question pour un champion, est viré après avoir animé le jeu depuis 1988, quand même. Un animateur a été désigné pour le remplacer. Il s'agit de Samuel Etienne, qui prendra le relais à la tête du jeu de France 3 dès la fin février. Le nouveau présentateur va se consacrer pleinement à Question pour un champion, puisqu'il quitte le 12-13 qu'il présentait précédemment, et où il sera remplacé par Émilie Tranen-Guyen, journaliste sur Canal+, à la tête des journaux de la nouvelle édition chaque midi. Elle est d'origine vietnamo-algérienne, et elle avait déjà travaillé pour le Grand Soir 3, avant de rejoindre iTélé, la chaîne d'information de Canal+. Alors le choix d'un journaliste est assez étonnant, mais il arrive après avoir testé de nombreux profils pour remplacer donc Julien Lepers. Donc les noms de Karine Tessandier, Élodie Gossuin, Marine Vigne ou encore Églantine Émeillé ont été notamment évoqués.
Il avait été question que des femmes quoi.
Oui, il avait beaucoup de femmes.
Alors ouais, pour faire le choix d'un homme au final.
Mais il avait été aussi question de Cyril Ferraud, mais ça aurait été affaiblir Slam qui marche très bien, donc voilà. Et donc finalement, Julien Lepers, vu qu'il avait enregistré beaucoup d'émissions en avance, terminera la présentation de son dernier Question pour un champion ce samedi 20 février. Et dès lundi prochain, Samuel Etienne aura pour mission de moderniser le jeu et de rebooster les audiences.
Et Samuel Etienne apparemment vient tous les matins enregistrer cette émission, puisqu'il a commencé il y a déjà quelques temps. Il y va en courant, voilà. Il fait une heure de footing le matin.
Et il faut savoir aussi qu'il a le corps quasiment entièrement tatoué, ce qui ne se voit pas à l'écran, mais voilà.
Et voilà, peut-être que les petites mamies vont pouvoir se régaler, parce que c'est vrai que Julien Lepers c'était gentil, mais
qu'il a eu la délicatesse, on peut dire, d'appeler Julien Lepers apparemment. Oui. Enfin, c'est ce qu'il dit lui.
Oui.
Et qu'il était un peu embêté de la façon dont les choses se sont faites.
Oui. Mais un petit peu, je suppose, comme sur TF1, voilà, quand
Claire Chazal était partie. Deux, quand Michel Drucker a remplacé Jacques Martin, ça n'avait pas été très courtois et très... Peut-être qu'il arrivera à Michel Drucker dans un avenir plus ou moins proche.
Il a re-signé pour 2 ans, Michel. Hein.
Ah oui, je sais.
Bon, enfin bon, ça a l'air d'être un bon gars quand même.
C'est ce que je voulais souligner. Oui.
Et ça sera effectivement une nouvelle forme d'animation de cette émission... Mythique du paysage audiovisuel. Vous me posez une question?
Et que pour ceux qui étaient un peu agacés, il y en a quand même, par Julien Lepers, ça peut un peu renouveler le genre.
Bon, alors tu vas nous parler sport.
Ah bah voilà.
Voilà, bah c'est voilà. Feu d'artifice.
Bon, bah tu nous parles sport.
Oui, je vais vous parler de rapprochement surtout entre les chaînes payantes dans le domaine du sport. Bah oui, c'est tombé hier soir. Alors d'abord, effectivement, mardi soir, beIN Sport 1 diffusait la 8e de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Chelsea, un match gagné par les Parisiens et qui a attiré un grand nombre de fans de football devant la télévision. Ça a été le record. Voilà. Anne-Marie se mouche, tout va bien. Bon, je recommence. Donc, ouais, Anne-Marie n'aime pas le sport, on l'a bien compris.
J'étais loin du micro, je pensais pas comment t'entendre.
Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, beIN Sport a battu son record avec 1 300 000 téléspectateurs en moyenne. C'est un record qui n'avait jamais été égalé, évidemment, depuis le 1er juin 2012, qui est le lancement de cette chaîne. Lors du dernier appel d'offres de la Ligue des Champions, la chaîne sportive avait chippé à Canal+ les droits de diffusion des meilleurs matchs de la phase finale de la Ligue des Champions. Sa grande rivale devant se satisfaire d'un match de qualité chaque semaine. Et bon, cette situation, alors par rapport à cette compétition-là, mais par rapport à d'autres droits sportifs sur lesquels beIN Sport s'est positionné, ne pouvait pas durer pour le concurrent Canal+. Et hier soir, Le Figaro comme Le Monde ont annoncé que Canal+, filiale donc du groupe Vivendi, avait signé un projet d'accord de rapprochement avec beIN Sport. Celui-ci prévoit une distribution exclusive de la chaîne sportive Qatari par Canal+, ce qui veut dire que pour pouvoir regarder beIN Sport, les téléspectateurs devront d'abord s'abonner à Canal+ ou à CanalSat.
Ils y sont perdants donc, hein, puisqu'a priori l'abonnement à beIN Sport était très attractif. Et que celui de Canal l'est quand même un peu moins.
Oui, ce sera du double. Alors, ce rapprochement stratégique doit permettre à la chaîne cryptée de résister à la baisse attendue de son nombre d'abonnés en raison de la perte donc, de droits sportifs. Mais ce projet d'accord a été déposé aujourd'hui à l'autorité de la concurrence, qui doit donner son accord, ce qui n'est pas acquis, puisque les deux acteurs se partagent la quasi-intégralité des droits sportifs de la télévision payante. Et puis il y a une histoire aussi de la fin sur CanalSat, de TPS, etc., où ils devaient réintégrer plutôt une chaîne de qualité mais gratuite, donc dans le bouquet. Donc voilà, ça veut dire que c'est un engagement qui devrait être modifié. Bon, pour le reste, on ne reviendra pas sur Canal+, mais c'est quand même un peu le feu à la maison entre les guignols qui décollent pas. Le Grand Journal avec des audiences pas très très bonnes, c'est-à-dire que le Grand Journal ne va pas partir finalement à Cannes parce qu'il semblerait-il que les organisateurs du festival n'avaient pas forcément envie de s'encombrer aussi d'une émission qui ne marche pas comme vitrine. Donc il y aura quand même bien sûr le groupe Canal+, mais avec plutôt des reportages, mais l'émission sera toujours faite en plateau depuis Paris. Et puis, il y aura d'autres émissions, notamment portées par Ali Badou. Et puis, évidemment, on peut parler aussi des dernières révélations sur la censure de certains sujets par la rédaction de la chaîne, sujets notamment en lien avec le monde économique et le patron Vincent Bolloré. Voilà.
Alors, on passe à un autre sujet, peut-être une grève à l'équipe.
Oui, il y a l'équipe 21, on reste dans les chaînes sportives. Même si la formule du quotidien L'Équipe, elle, marquée par son passage au format tabloïd, est un succès, la chaîne L'Équipe 21, lancée en décembre 2012, elle peine à décoller. Sur l'ensemble de l'année 2015, la chaîne a enregistré une part d'audience de 0,6%, ce qui fait la chaîne gratuite la moins regardée à égalité avec numéro 23 et France O.
Et en même temps, voilà, pour être regardé, il faut avoir un peu des exclus. Pour avoir des exclus, il faut avoir un peu de fric, ce qui n'était pas le cas de l'équipe 21 à son lancement. Quoi,
oui. Hein. Après, c'était aussi un positionnement, justement, c'est ce que dit le directeur du groupe L'Équipe, Cyril Linette. C'est de revoir aussi le positionnement de la chaîne de télévision du groupe pour être vraiment là où être le lieu du spectacle, pour montrer les compétitions finalement, et être moins sur l'analyse et sur le tout info, ce qui avait été la conception de base et qui aujourd'hui est largement assuré par le média net, et donc pour lequel il n'y a pas d'intérêt d'une diffusion télé. Après, il y a quand même des compétitions assez intéressantes sur l'équipe 21 qui marchent plutôt bien. Le biathlon, le handball, enfin voilà, des choses qui sont assez sympas malgré tout à regarder. Voilà, avec voilà, pas forcément beaucoup de commentaires, etc. Mais quelque chose d'assez propre, on va dire. Donc cette réorientation quand même qu'on va conduire la chaîne à se séparer de 7 salariés en CDI et va limiter le nombre de pigistes et d'intermittents. Donc au total, ça fait une 60aine de personnes qui seront concernées par cette réorientation de la chaîne. Voilà. Et donc depuis cette annonce, les salariés du groupe L'Équipe ont lancé un appel à la grève. Le quotidien n'était donc pas disponible dans les kiosques et la chaîne de
il
télé.
Il est revenu ce matin. Hein.
Voilà, il est revenu ce matin, mais voilà. Et la chaîne de télé était en mode rediffusion pendant aussi 2 jours. Voilà.
Bon, maintenant tu nous parles des Enfoirés.
Et oui, le concert 2016. Alors,
heureusement qu'il nous en parle parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais. On n'en a pas beaucoup entendu parler cette année.
Non. Donc le concert 2016 des Enfoirés approche, hein, puisqu'il est prévu le 11 mars prochain. Ce soir-là, donc, TF1 diffusera l'édition 2016. Cette année, le grand spectacle organisé au profit des Restos du Cœur a élu domicile au Palais Omnisports de Paris-Bercy, hein, qui ne s'appelle plus comme ça, mais bon, voilà. Du 20 au 25 janvier, le 20 au 25 janvier, les enregistrements ont eu lieu. Puisque les organisateurs ont maintenant décidé d'alterner tous les ans une salle en province et la plus grande salle de la capitale. Donc voilà. Alors pour ce cru 2016, on retrouvera bien sûr les habitués, Mimi Mathy, Jennifer, M. Pokora, Pascal Obispo, Chaim, Patrick Fiori, mais aussi des petits nouveaux. On retrouvera l'imitatrice et chanteuse Véronique Dicker, le rappeur Soprano, Jeff Panaclock aussi. Et sa marionnette, voilà. Donc tout ça sera bien sûr dans le CD et le DVD et qui s'intitulera cette année Au rendez-vous des Enfoirés, donc le 11 mars prochain.
Bon, et puis.
Et alors, autre grand rendez-vous de la télé, l'Eurovision qui s'approche.
Il n'y aura plus les Twin Twin avec la moustache là.
Non. Quel dommage.
Alors. Non, mais c'était il y a 2 ans.
C'est vrai. C'est vrai. Mais l'année parce dernière, que je me souviens de ce groupe. Mais...
L'année dernière, c'était Lisa Angel
sur
la guerre de 14. C'était particulier.
J'avais complètement oublié. Alors, donc... Elle n'avait pas sorti un album d'ailleurs, non?
Ah, peut-être. Non, mais... Elle a dû...
Complètement oublié aussi.
Donc, dans 3 mois, Stockholm accueillera la grande finale de l'Eurovision et les 2 demi-finales, évidemment, les 10 et 12 mai. Sont retransmises en France en direct sur France 4, ainsi que la finale du 14 mai, qui aura lieu dans la Globe Arena de la capitale suédoise. Alors, pour mettre en forme ce grand spectacle, la chaîne suédoise SVT a fait appel à Frida Wirtson et Victor Bratström, qui avaient déjà mis en scène la cérémonie de 2013 à Malmö, qui était effectivement assez réussie. Et ils ont tout misé sur la lumière qui enveloppera la scène et ont également développé un mur de LED innovant qui permettra aux artistes de se déplacer à l'intérieur du mur. Voilà, alors depuis plusieurs semaines, les pays commencent à lever...
Ça, c'est du teasing. Hein ?
Eh, non, mais je vous donne un peu les infos, quoi. Depuis plusieurs semaines, les pays commencent à lever le voile sur leurs représentants. Il y a quelques jours, l'Autriche diffusait son concours permettant de trouver le représentant du pays pour l'Eurovision 2016. Et parmi les participants, Zoé, une jeune femme de 19 ans, a réussi à rafler la mise avec une particularité, un titre en français, Loin d'ici, un titre sur un monde imaginaire. Très pop, cette chanson n'est toutefois pas assurée d'être interprétée le 14 mai prochain à Stockholm pour la finale, puisque comme l'Autriche ne fait pas partie du Big Five, donc les 5 pays créateurs, il faudra passer par la demi-finale du 10 mai pour que peut-être cette chanson se retrouve en finale. Voilà, du côté de la France, France 2 a annoncé que l'artiste et la chanson qui représenteront l'Hexagone et succéderont donc à N'oubliez pas de Lisa Angel, il ne fallait pas oublier, seront donc dévoilés le 12 mars, on a encore quelques semaines à attendre. Par ailleurs, la chaîne publique suédoise SVT, donc, qui retransmettra la cérémonie, a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne prendrait pas les mêmes mesures que la chaîne autrichienne ORF l'an dernier. Elle ne compte en effet pas mettre en place de réducteurs sonores pour diminuer le son d'éventuelles huées lors de la cérémonie. Ça avait fait un peu le buzz l'année dernière, puisque l'Autriche avait pris cette mesure pour protéger en premier lieu la Russie, qui avait fait l'objet de huées l'année précédente au Danemark. puisque le public présent lors de la finale de l'Eurovision a en effet pris l'habitude d'exprimer sa désapprobation face à la prestation russe, non pas pour punir l'interprète ou critiquer le titre, mais plutôt pour adresser un message à la Russie et critiquer ses lois anti-gay, puisqu'on sait que l'Eurovision est quand même un événement très gay-friendly.
Ah bon ?
Oui ?
Bon, bah, et il y en a peut-être dans les téléréalités, non ?
Alors, on va faire effectivement un petit tour des téléréalités, mais je vais te décevoir, chère Anne-Marie, pas de Koh-Lanta.
Non, ça c'est nul parce que par contre ça a recommencé et...
Pas de The Voice, pas de Top Chef.
Je regarde pas The Voice. Bon, alors,
on va d'abord parler de la dernière venue dans ce paysage des téléréalités. Et les audiences ont d'ailleurs été largement au rendez-vous mardi soir. Et je vais donc vous parler de Garde à vous. Garde à vous, donc, cette nouvelle télé-réalité qui va filer droit sur M6 le mardi soir, puisque la chaîne replonge les téléspectateurs à l'époque du service militaire des années 60-70. Donc, dans ce programme Garde à vous, produit par Studio 89, elle fera ainsi revivre à 19 garçons de 18 à 27 ans, de tout milieu et de toutes conditions physiques, les rudes temps de la conscription. Alors même que le débat sur son retour est particulièrement présent dans la société, dit le site Pure Média sur lequel j'ai pris ce petit texte. Pendant 3 semaines, ces jeunes seront cantonnés dans un fort des Ardennes, placés sous le commandement du capitaine Dominique Cortiula, instructeur à Saint-Cyr. Privés de smartphone, ils se verront inculquer les valeurs de l'armée par un peloton d'instructeurs mené par Marius, ancien combattant et instructeur des commandos de marine. Ce dernier est devenu célèbre après être apparu en 2005 dans un reportage d'Envoyé spécial et après avoir participé en 2011 au film Force spéciale de Stéphane Ribaujade. Voilà, voilà.
Ça nous laisse sans voix.
Vous avez regardé, non ?
Non, non. Et toi ?
Ah ben oui, j'ai regardé. Ouais. Bah, pour vous en parler quand même.
Et alors ?
Ben c'est pas si mal. Ah. C'est pas si mal.
Tu as fait le service militaire, toi, Guillaume ?
Non, du tout. Mais je trouve que la dynamique de groupe qui commence à se dégager n'est pas inintéressante. Donc, à suivre.
Bon, et alors tu voulais nous parler aussi du Bachelor.
Oui, alors que les filles se cramponnent ou pas. Hein, vous me direz en fonction des photos que je vous ai mises dans les petits papiers qui sont devant vous. NT1 dévoile son nouveau Bachelor. Originaire d'Italie, Gianmarco, chef d'entreprise au brushing impeccable, est le nouveau Don Juan de la version 2016 de la télé-réalité de Dating. Il a 34 ans, il dirige avec sa mère à Milan une société de prêt-à-porter de luxe. Il est amoureux de la France et le séducteur a également participé au lancement de la boutique Abercrombie sur les Champs-Élysées. Pour cette nouvelle saison présentée donc par Boris Ergot, remplaçant de Grégory Hacher, 21 prétendantes seront donc en compétition pour séduire l'Italien. Voilà, il faut savoir qu'en plus, NT1 avait été obligé d'annuler le premier tournage de cette 3e saison sur NT1, puisque pour des raisons personnelles, le Bachelor choisi par la production précédemment avait préféré stopper l'aventure après quelques jours d'enregistrement à Chartres, seulement obligeant donc la chaîne à trouver un nouveau Bachelor. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon. Il est mignon, mais je me dis, il est riche, il est mignon, c'est un séducteur. Je vois pas pourquoi il fait cette émission, si ce n'est pour faire parler de lui et gagner encore plus de l'argent. Parce que je pense que des femmes, il doit en trouver tous les jours. Donc voilà, pas besoin d'une émission pour ça.
Caroline ?
Ouais, je suis pas emballée.
Bon, d'accord.
Non, mais lui doit emballer pas mal de filles, par contre.
Ouais, sûrement, voilà. Oui.
Bon, alors peut-être...
tu voudrais marcher un petit peu sur mes plates-bandes, là, oui, je sens, ça. Là, Guillaume.
C'est ça, en fait, à venir aussi une émission de rencontre pour des cuisiniers. Et oui, selon les informations du Parisien, D8 est en train de mijoter une nouvelle émission de rencontre pour des chefs de cuisine. La chaîne du groupe Bolloré n'est pas son premier programme pour les amoureux, puisqu'elle avait diffusé en avril 2015 Adam Recherche Web, hein, je vous rappelle, la télé-réalité où des candidats nus recherchaient l'amour. Donc cette fois-ci, produit par Réservoir Prod, ce nouveau format va donner un coup de pouce à 3 cuistots qui, concentrés sur leur métier, n'ont pas le temps de trouver leur âme sœur. Encore en quête de ces candidats, la chaîne, à la star de l'amour et dans le pré, va d'abord présenter à l'antenne les portraits des cuisiniers afin de convaincre les futures prétendantes qui pourront les contacter via une plateforme. Et comme sur M6 avec les agriculteurs, si la mayonnaise prend, les caméras suivront la rencontre des chefs de cuisine et des candidates. Vous remarquerez toutes les allusions.
Oui, on n'est pas débiles.
Que le journaliste de Pure Média s'est amusé à mettre dans cette brève.
Ouais, sauf que si les candidats n'ont pas le temps de trouver une âme sœur, je vois pas comment ils pourraient ensuite avoir une relation avec cette âme sœur, non?
Et oui.
C'est un peu débile, mais bon, bref.
Ils ont le temps de faire de la télé-réalité, par contre.
Oui, c'est ça, c'est assez bizarre. Bon, et alors maintenant, tu vas nous parler d'M6 avec Karine Lemarchand qui prépare une nouvelle émission.
Oui, une nouvelle émission de rencontres, mais des rencontres un peu différentes, puisque M6 veut peser pour l'élection présidentielle. Et pour cela, comme l'a révélé le Figaro.fr, la chaîne va dégainer une émission politique présentée par Karine Lemarchand. Dès septembre, l'animatrice proposera des portraits intimistes d'hommes et de femmes politiques à quelques mois de la primaire à droite et de l'échéance électorale de 2017.
C'est merveilleux.
Voilà, donc Nicolas de Taverneau, le PDG de M6, dit effectivement Karine travaille sur un projet qui serait une nouvelle façon d'aborder la politique. Il y a nécessité de déspécialiser la politique, de la traiter différemment et d'y faire revenir les jeunes. Voilà, reste à savoir s'ils réussiront à convaincre les politiques de participer, car certains comme François Fillon, Nicolas Sarkozy et bien d'autres souhaitent éviter les émissions d'infotainment.
Bon.
Bien.
Et ensuite, on parle.
Tu nous parles un peu série.
Oui, alors là aussi.
Quand même, on sort de du Midtown, là, et il y a des bonnes choses qui arrivent.
Oui. Alors moi, je vais vous parler de ce qui est plutôt à l'antenne en ce moment. Mais d'abord, je ne parlerai pas de Sheriff, Castle, qui ont terminé leur série avec de très bons scores sur France 2, et j'aime beaucoup ces deux séries. Ni de Section de Recherche, qui a fait son retour sur TF1 le jeudi soir et qui marche là aussi très très bien, 7 millions de téléspectateurs jeudi dernier. C'est assez important. Mais on va quand même dire deux mots, même si on se rapproche de la fin de cette saison 8.
Ouais, de
Fais pas ça.
C'est terrible.
C'est terrible.
Minuscules épisodes là,
c'est
non ça. Mais n'importe
donc,
quoi.
Les Boulets et les Lepic sont de retour depuis deux semaines. Tous les acteurs sont de retour. Voilà, qu'il s'agisse des époux Boulet joués par Isabelle Gélinas et Bruno Salomon, des époux Lepic, Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec, et des enfants avec Anis Lespert, Tiffaine Haas, Alexandra Gentil, etc. Ils sont toujours au top, toujours avec des rebondissements, de très bonnes audiences pour France 2.
Plus c'est gros, plus c'est bon.
Les épisodes d'hier.
Vous conseille, si vous avez juste 5 minutes, je vous conseille Le Grand Écart de Valérie Bonneton. Parce que vraiment, oui, c'était.
Cette séquence est assez réussie.
J'avoue, là, avoir éclaté de rire.
Ouais, les deux derniers épisodes donc, de la série sont à retrouver mercredi prochain. Et France 2 annonce que la saison 9 est déjà en chantier.
Toujours série,
avec le retour de la série préférée des ménagères. En tous les cas, c'est les sondages qui disent ça. Grey's Anatomy fera son retour le mercredi 2 mars à 20h55 sur TF1 pour la 11e saison. Cette année, deux épisodes inédits chaque mercredi. Et si les téléspectateurs vont retrouver Meredith Grey, donc jouée par Hélène Pompeo, Alex Karev, joué par Junsit Chambers, ou encore Cali Torres par Sarah Ramirez, ils devront faire sans l'un des personnages historiques de la série, Christina Yang, jouée par Sandra Oh, qui a quitté le programme.
Et je vous préviens, chaque saison perd désormais un personnage. Hein, donc, plouf plouf pour cette saison 11.
On passe sur France 3.
Oui, et Plus belle la vie continue finalement, puisque on l'avait évoqué dans une précédente chronique télé, il y avait l'histoire entre France Télévisions et Newen qui produit beaucoup de séries et d'émissions de France Télévisions qui a été rachetée par TF1. Et puis finalement, France 3 prolonge pour une année Plus belle la vie, selon le Parisien. Alors, il faut savoir que Plus belle la vie, ça représente à peu près un point d'audience pour France 3. Donc l'enjeu est stratégique pour la chaîne de maintenir cette série.
Alors tu ne nous en dis rien, semble-t-il, mais à démarrer sur Canal, alors bien sûr pour les abonnés, depuis deux semaines, une série française, Le Baron Noir, avec Kad Merad et Nils Harolstrup, vraiment, je suis complètement addict, c'est super bien foutu, Kad Merad est... très très bon dans le rôle, une série sur les coulisses de la politique à la française. Et franchement, j'ai bien peur que la fiction soit encore bien plus loin de la réalité. Et c'est déjà terrifiant.
Allez, on finit avec France 2 et donc son émission phare, N'oubliez pas les paroles.
Oui, N'oubliez pas les paroles qui a fêté son 2000e numéro lundi. Donc ce jeu diffusé par France 2 en Access Prime Time, présenté par Nagui. Et donc Nagui a sorti son répertoire téléphonique pour organiser plusieurs grosses surprises au maestro Gauthier, hein, qui est en train de faire de très bons scores, puisqu'il est depuis hier le 5e meilleur maestro du programme, hein, en ce moment, et sa challenger du jour, Laetitia. Ainsi, Benabar, Axel Red, Alain Chamfort et Pascal Obispo sont arrivés successivement sur le plateau pour chanter en duo un de leurs tubes avec les candidats de l'émission. Forcément, c'était un épisode assez sympa de cette émission. Et donc, bah, pour terminer cette chronique, je vous propose d'écouter Pascal Obispo dans un titre qui est dans le titre phare de son album, basé sur un recueil de poèmes qui appartenait à son père. Et le titre, c'est « Je ne sais plus, je ne veux plus ».
Je ne sais plus d'où naissait ma colère. Il apparaît, ses torts sont disparus. Ses yeux priaient, sa bouche voulait plaire. Où fuyais-tu, ma timide colère? Je ne sais. Je ne sais plus. Je ne veux plus regarder ce que j'aime. Dès qu'il sourit, tous mes pleurs sont perdus. En vain, par force ou par douceur suprême, l'amour et lui veulent encore que j'aime. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne sais plus le fuir en son absence. Tous mes serments alors sont superflus. Sans nous trahir, j'ai bravé sa présence. Mais sans mourir, supporter son absence. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Bon voilà, on va tout vous dire pendant la chanson. On a Ludovic qui est venu nous dire que c'était pas normal de programmer une chanson pareille. Et surtout qu'il nous disait qu'il avait pas du tout aimé les deux premiers épisodes de Fais pas ci, fais pas ça. Mais bon, nous on lui disait que...
Malgré la poule d'eau, qui a beaucoup fait rire Anne-Marie.
Voilà.
Tous les doux sont dans la nature. Bon alors, on finit cette émission par toi, Caroline. Et tu as décidé de nous parler...
Cuisine.
Cuisine.
On a dit, hein.
Oui, ah bah c'est cuisine. Comme tu veux. Alors en même temps, ça doit être quand même un petit peu... Il doit y avoir un petit peu de radio et un petit peu de livres aussi.
C'est ça, Guillaume, oh, t'es fort. Hein.
Bah, c'est vu ce qui est sur la table.
Alors, je vais vous poser quelques questions. Savez-vous comment Auguste Escoffier a inventé sa pêche melba ? Quel était le plat préféré de Claude Chabrol ? Ou faut-il saler l'eau du pot-au-feu ? Ou quels sont les 5 meilleurs burgers de New York ? Ou encore, que collectionne un casa nuxifile ou un œuf de mouette? Est-ce que ça, quel goût ça a? Savez-vous tout ça, Guillaume, Anne-Marie?
Non.
Non. Alors là, j'avoue qu'on n'a pas révisé.
Voilà, toutes les réponses sont dans l'ouvrage qui est à mes côtés, qui a été publié en fin d'année aux éditions Marabout. On va déguster. Alors, le titre vous dit sûrement quelque chose, peut-être quelque chose. Normal, c'est celui d'Anne-Marie se remouche. Elle a décidé de nous sabrer nos deux chroniques.
J'étais sous la table.
C'est de mieux en mieux. Oui.
Bon.
Bon, donc c'est donc le titre de l'émission de France Inter le dimanche matin à 11h autour de François-Régis Gaudry. Devenue une véritable institution à l'antenne, cette émission aborde la nourriture sous tous ses angles, historiques, sociologiques, pratiques, décalés, le tout avec une équipe de chroniqueurs et d'invités, cuisiniers, pâtissiers, producteurs, historiens, spécialistes des métiers de bouche. 5 saisons donc, et un ouvrage qui est donc paru en cette fin d'année.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur François-Régis Gaudry, pour ceux qui n'écoutent pas finalement cette
oui,
émission.
Alors François-Régis Gaudry est un critique gastronomique français qui est né dans la banlieue lyonnaise, à Sainte-Foy-lès-Lyon. Je veux dire que ça ne peut donc pas être un homme trop mauvais. Hein, quand on a baigné dans la cuisine lyonnaise dans son enfance, forcément, il en reste des traces après. Il est rédacteur en chef adjoint et critique gastronomique de L'Express. Il anime donc cette émission « On va déguster » sur France Inter le dimanche matin et l'émission également « Très très bon » sur Paris Première. Il anime également un blog gastronomique « Etoc ». Et bien sûr, il est du coup l'auteur de plusieurs livres de gastronomie. François-Régis Gaudry, vous l'avez compris, n'est donc pas chef de cuisine et ne se prend pas pour un chef, ni à la radio ni dans ses bouquins. Il privilégie la petite histoire des acteurs des recettes, il nous nourrit d'anecdotes pétillantes, fait des portraits, pose des questions et y répond. François-Régis Gaudry est entouré, pour son émission comme pour le livre, d'amis, de contributeurs, une vraie galaxie, une vraie bande. Et ça fonctionne très très bien. Vous connaissez l'émission tous les deux ?
Moi j'ai déjà entendu, oui, effectivement.
Tout à fait.
Ouais. Alors, moi j'avoue que je suis assez fidèle le dimanche matin. C'est le moment où je cuisine, généralement. Ah ouais. Et je me régale de les écouter. Les thèmes sont très très variés chaque dimanche, donc c'est très agréable.
Moi je l'écoute sous la douche.
Ah. Et oui, c'est vrai que tu te lèves tard le dimanche.
C'est ça.
Alors l'ouvrage a été réalisé avec plus de 80 contributeurs. C'est un inventaire utile et futile, décalé et copieusement illustré, qui comble tous les appétits en plusieurs centaines de recettes, de tours de main, de faux pas, d'adresses, de planisphères et de tours du monde. Comme l'émission radio, il aborde la nourriture sous tous ses angles. Et on se plonge dedans, on déguste, on a du mal à sortir de cet ouvrage... pourtant, qui est donc bien fait et passionnant. Je l'ai acheté ce week-end à Paris et j'avoue être prise au piège tous les soirs d'une dizaine de pages et tous les soirs j'apprends plein de choses. C'est très intéressant.
Et alors on suppose qu'il y a eu des critiques de ce livre
Oui, alors idemiam.com commente « Ici ne vous attendez pas à un livre conformiste avec un sommaire et des chapitres bien rangés par ordre alphabétique ». Non, bien au contraire, on passe avec délice de la frite à la Madeleine de Proust pour continuer sur un petit lexique de faux amis en cuisine ou l'histoire de la morue. Bref, à chaque page, on saute du coq à l'âne et c'est aussi ce qui fait le charme du livre, comme de l'émission, hein, puisque chaque dimanche, les thèmes sont très différents. Et c'est aussi ce qui fait que l'on a envie de s'y plonger et de s'y perdre. À chaque page, à chaque chapitre, à chaque recette, on y apprend quelque chose. 10 minutes par jour de cette encyclopédie, du bon goût et on se sent tout simplement et tout de suite plus intelligent. C'est mon cas tous les soirs, c'est pour ça que je récidive. Alors, pour les frères Pourcel, sur leur blog Food and Sense, tout est abordé en mots et images, un livre atypique et olympique, historique, sociologique, pratique, un condensé de rencontres, d'interviews, un livre qui n'intimide pas avec des termes et des gestes, un concentré de culture culinaire, un livre qui donne envie d'aller au marché et de cuisiner. Pour les frères Purcell, les plus de ce livre, le poids, des mots, encore des mots à dévorer, des images et des photos, un prix doux, 35 euros, très doux même, hein. Des milliers d'informations, un livre qui ouvre l'appétit et l'esprit. Les moins, ils sont deux, la taille, hein, c'est un gros livre, 255 par 335 mm. Donc c'est un livre qui est...
Format BD, mais...
Oui, grand format BD,
voilà,
ouais.
Grand format BD.
Oui, qu'on lit pas au lit, quoi,
finalement. Mais avec l'équivalent de, je sais pas, 5 BD en hauteur, 3 ou...
Et c'est donc un livre qui est difficile à manier en cuisine. Je crois pas que ce soit le but, hein, mais bon, voilà.
Et donc, comment sont les recettes ?
Alors, les recettes du livre sont nombreuses, hein, vous l'aurez compris, très nombreuses, plusieurs centaines. Et ce qui fait un peu leur charme, c'est qu'elles sont simples, extrêmement simples. Des recettes de marché, d'ici d'ailleurs, des recettes classiques, comme le pâté en croûte ou le maquereau mariné, ou la blanquette de veau à l'ancienne. Des recettes aussi originales, comme le gazpacho de pousse de grande berce, de la mer comme la dorade royale, juste raidie, de la terre comme le fricandeau à l'oseille, plat préféré du commissaire Maigret, du soleil comme la confiture de mûre, de ronces ou de figues au miel. Des recettes plaisir et gourmandise, avec beaucoup d'amitié et de partage, d'histoire et de culture, donc. Hein. Elvire von Bardelensbur, non pardon, c'est moi qui ai mal écrit, Bardeleben, sur Next Libération, en décembre, disait « C'est le genre de bouquin qu'on ouvre en pensant le feuilleter deux minutes et devant lesquels on est toujours planté une heure plus tard. Non pas que l'intrigue soit passionnante, parce qu'il n'y en a pas, mais dans ce bel ouvrage, on trouve à boire et à manger. Un exemple, inaugural double page consacrée à l'illustre Auguste Escoffier. Elle fait le point sur ce que la cuisine française doit au chef, le menu à prix fixe, le service à la ruse, l'organisation de la brigade de cuisine. » Partage sa recette de la crêpe Suzette, résume ses publications majeures, montre une petite map monde des cuisines d'Europe et d'Amérique mise en place par le cuistot Escoffier et exhume le dernier menu du Titanic qu'il a élaboré. Voilà. C'est un vrai régal. Je l'ouvre pour montrer à Anne-Marie et Guillaume qui peuvent en témoigner. C'est pas du tout un livre classique, hein, dans chaque page est différente. Beaucoup, beaucoup d'illustrations, des cartes, des dessins, des photos... un vrai bonheur, quoi. Quand on est un peu gourmet et gourmand, on se régale.
Et comment, justement, on fait donc pour passer du livre à la cuisine ? Parce que ça n'a pas toujours été évident, je suppose.
Alors, il se trouve que c'est le hasard, mais que c'est un hasard heureux. Pour les amoureux de la cuisine, on sait qu'ils sont nombreux, hein, vu le succès des émissions télé qui y sont consacrées. Guillaume vient de nous dire qu'une nouvelle allait encore être lancée. Ceux qui souhaiteraient donc pousser un peu plus loin l'expérience... L'organisme de formation AFPA innove depuis le début du mois en lançant le premier. Alors ça s'appelle Massive Online Open Course, hein, les fameux MOOC, en proposant 101 techniques de base de la cuisine française. Donc c'est un cours entièrement gratuit, ouvert à tous, professionnels et particuliers, qui souhaitent se former, se perfectionner ou s'orienter vers le métier de la cuisine. L'AFPA avait à l'origine conçu cet enseignement pour un public doté d'un projet professionnel autour de la cuisine et puis a finalement décidé de l'ouvrir à tous. Donc les mousseurs, les stagiaires online, sont guidés par Véronique Roussel et Éric Maucuy, deux formateurs expérimentés du métier de la cuisine. À eux deux, ils ont déjà formé à l'AFPA plus de 1000 professionnels de la restauration. Voilà, alors les cours sont constitués de vidéos courte et simple, complétée par des documents écrits pour approfondir les connaissances, des quiz pour s'auto-évaluer, des conseils de chef, anciens stagiaires de l'AFPA pour vous aider. On peut apprendre à émincer les légumes, fileter une sole, réussir une réduction d'échalotes. Moi je me suis inscrite. Ils considèrent que c'est à peu près 2 bonnes heures par semaine, hein, il y a 6 semaines de cours. Ça a débuté le 1er février, ça finira mi-mars. Vraiment, je vous encourage à aller jeter un œil.
Et alors, ça marche ?
Alors, ça marche fort, puisque les concepteurs ne s'attendaient même pas à cet engouement-là. Dès le démarrage, 28 000 inscrits sur le site, quasiment 2 000 sur Facebook. Donc, Loïc Tournedoué, le directeur de projet, dit « La pédagogie de l'association est d'abord basée sur le geste, la pratique et ensuite la théorie. » On peut toucher un maximum de public et donner envie aux internautes de se former au métier de la cuisine. Alors, chaque année, sur ces plateaux techniques, l'AFPA forme 600 cuisiniers en France. Et Jean-Luc Carandel, qui est l'un des concepteurs du MOOC, précise « Ce n'est pas suffisant, 20 000 offres d'emploi restent sans réponse ». Donc, la pédagogie s'adapte aux nouvelles technologies. Nous utilisons déjà des vidéos pour nos cours. On va y ajouter les réseaux sociaux. On apprend beaucoup en échangeant avec ses pairs, précise Jean-Paul Nicolas, qui est un des concepteurs également. Alors, je rappelle, c'est gratuit. Donc, il suffit d'aller sur... vous tapez sur Internet MOOC AFPA et c'est celui qui sort en premier. Il suffit de vous inscrire. Vous validez votre inscription et vous avez accès aux cours. On en est à la deuxième semaine, là. Donc on a appris à traiter les légumes et...
Ouais, alors je trouve que ça manque de...
Tu connais ?
De traduction concrète dans, dans notre...
Moi j'en suis qu'à la deuxième semaine de cours, j'allais pas t'amener des carottes lavées, mon pauvre Guillaume.
D'accord.
Tu aurais été fort
déçu. En deux heures, t'as appris donc à laver des carottes ?
Oui.
Rendez-vous donc mi-mars. Le rendez-vous est pris.
Tu ne feras pas des pizzas. Hein.
L'intérêt, c'est les nombreux forums qui sont avec et les nombreux commentaires des participants. Il faut savoir que ce MOOC n'est pas sanctionné par un diplôme, mais par une attestation de suivi. Hein, le suivi étant validé à chaque quiz. Et que l'AFPA imagine en seconde étape de proposer des modules pour aller plus loin, des stages en entreprise et des certifications dans ces centres. Voilà. Enfin, vraiment, je vous recommande, c'est gratos, donc allez jeter un œil et vous apprendrez à laver vos carottes. Oui, effectivement, Anne-Marie. Et alors, je me suis dit que je ne pouvais pas finir cette chronique cuisine sans parler du best-seller actuel en librairie. Vous avez une petite idée ? Ce n'est pas celui de Sarkozy, ni celui de Taubira. Non, je sais pas. Alors, c'est ce fameux livre à couverture bleue qui s'appelle « Le charme discret de l'intestin » de Julia Enders, l'allemande, traduit donc de l'allemand par Isabelle Lieber. Julia Enders, c'est une jeune doctorante et nouvelle star allemande donc de la médecine qui rend ici compte des dernières découvertes sur un organe sous-estimé et méconnu. Elle explique le rôle que joue ce que l'on appelle en médecine le deuxième cerveau et son microbiote, donc l'ensemble des organismes l'habitant, dans des problèmes tels que le surpoids, la dépression, la maladie de Parkinson, les allergies, et j'en passe. C'est illustré avec beaucoup d'humour par la sœur de l'auteur et cet essai fait l'éloge d'un organe relégué dans un coin tabou de notre conscience. Avec enthousiasme, Julia Enders invite à changer de comportement alimentaire, à éviter certains médicaments et à appliquer quelques règles très concrètes pour faire du bien à son ventre. Alors, c'est un véritable phénomène de librairie, puisque le charme discret de l'intestin s'est vendu à presque 1 million d'exemplaires en Allemagne et est aujourd'hui publié dans 26 pays.
Alors, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter maintenant, Caroline ?
Alors, je vais épargner Ludo, parce que j'avais imaginé de peut-être passer Patrick Topalov, « J'ai bien bu, j'ai bien mangé », après cette chronique.
Je ne suis pas sûr que tu l'épargnes avec Zaz, mais c'est pas grave.
Mais bon, voilà, j'ai choisi Zaz, c'est mon petit coup de cœur du moment, on va dire.
Rappelle-moi le jour et l'année, rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. De rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. J'oublie les jambes à mon cou si un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Appelle-moi le jour et l'année.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Et voilà, c'est bientôt la fin. Alors Caroline, tu avais oublié de nous dire quelque chose.
Oui, que j'ai fait cette chronique avec d'autant plus d'envie que je suis allée ce week-end à Paris et que je suis passée chez Christophe Michalak. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils le savent, puisque j'ai testé sa fameuse tarte au citron revisitée, tarte au citron yuzu.
Ça avait l'air très 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 bon.
C'était aussi beau que bon, j'avoue que je me suis régalée et que, hormis le prix qui est quand même un peu élevé, j'aurais bien un peu goûté de tous les gâteaux qu'il y avait en vitrine.
Justement, par curiosité, ça coûtait
quoi? La fameuse tarte citron yuzu meringuée est à 48 euros. Et nous avons mangé largement assis dessus.
Ah oui.
D'accord.
Voilà, il fait des petites portions en verrine qui sont à 7,50. Donc c'est à peu près...
Il faut déguster, quoi.
Ah ouais, il faut déguster. C'est vraiment le thème du jour.
Bien, ben voilà, vous pouvez déguster en réécoutant cette émission le mardi à 19h, le jeudi à 12h30
et sur internet
48fm.org. On vous souhaite une très bonne quinzaine et on vous dit à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Allez.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.